7h41 sur Europe 1. C'est l'événement série, l'événement télé, l'événement culture de la semaine. La saison 2 de la série médicale Hippocrate sur Canal+. Chronique réaliste de l'hôpital à travers le parcours de jeunes internes et dans quel contexte le tournage interrompu pendant le premier confinement. Pourtant, ça n'est pas une saison sur la pandémie de Covid. Ancien médecin, le réalisateur d'Hippocrate a même ressorti son stéthoscope pour aider à l'hôpital public. Thomas Lilti est mon invité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Thomas Lilti.
Bonjour.
Alors dès le début de cette saison 2 d'Hippocrate, vous donnez le ton. Une canalisation rompt aux urgences, le service s'installe dans celui de médecine interne qu'on a suivi lors de la première saison. Cette inondation, très clairement, on a l'hôpital qui se noie, qui prend l'eau, littéralement.
Oui, c'est une métaphore qui a le mérite d'être efficace, j'espère, de montrer un hôpital qui coule, tout simplement. Les pieds dans l'eau, et c'est 8 épisodes devant nous pour les personnages et pour les héros que sont les soignants, pour écoper, pour empêcher cet hôpital de sombrer.
Et quand on suit Hippocrate, que ce soit la saison 2 ou si on revient sur la saison 1 et vos films, évidemment Thomas Lilti, ça fait des années qu'on connaît les difficultés de l'hôpital.
Bah, déjà, quand vous dites ça fait des années qu'on sait l'état de l'hôpital, moi j'ai l'impression que quand la crise sanitaire est arrivée au mois de mars l'année dernière, il y a un an, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont découvert que l'hôpital public il allait vraiment très mal. Et c'est vrai que ça fait des années que moi j'essaie de le raconter à ma manière à travers des œuvres de fiction et paradoxalement à travers des œuvres de divertissement, ce qui est à nouveau d'ailleurs la saison 2 d'Hippocrate. C'est extrêmement romanesque et pourtant on est en effet à une dimension politique parce qu'on est profondément dans les coulisses d'un hôpital public avec toutes les difficultés, les souffrances que rencontrent les soignants, extrêmement prégnantes pour tous les Français quand la crise sanitaire est arrivée au mois de mars.
Je retiens de la première saison cet échange entre médecins, on ne sait pas quand on est dans le pire.
Ben, en fait l'hôpital c'est vraiment, et c'est ce que j'ai essayé de construire avec mes scénaristes sur cette saison 2, c'est-à-dire qu'une catastrophe, une canalisation qui inonde le service des urgences, amènera toujours une autre catastrophe à l'hôpital. On va de catastrophe en catastrophe. En tout cas, tant qu'on ne prend pas soin de l'hôpital et tant qu'on ne prend pas soin des soignants, eh ben on ne peut pas prendre soin des malades. Et c'est exactement ce que j'essaie de raconter. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette saison 2, elle a été écrite avant la crise sanitaire du coronavirus. Et en même temps, qu'est-ce qui raconte plus l'idée qu'une catastrophe en amènera toujours une autre? L'arrivée de la crise sanitaire, justement, qui est arrivée pourtant alors que la série était très majoritairement écrite. Donc ça crée une ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur regarde cette saison 2, et pourtant le spectateur sait que ce qui est devant eux, le fameux pire dont vous venez de parler, il est devant eux, et ce sera encore pire une fois qu'ils auront réglé déjà les problèmes que je leur mets sur la route dans la saison 2.
Mais pour parler de cinéma et moins d'hôpital, on peut regarder Titanic en sachant qu'il va couler, on peut regarder Jeanne d'Arc en sachant qu'elle va brûler.
C'est quelque chose ça qui m'a échappé, que je ne pouvais pas maîtriser. J'ai absolument pas évidemment envisagé qu'il puisse y avoir cette crise sanitaire, mais je crois que ça vient renforcer encore même la dimension et les trajectoires romanesques des personnages et l'affection et l'empathie qu'on a pour tous ces soignants. Et
une expression apparaît dans un dialogue de cette saison 2, on est en mode dégradé.
L'astuce de cette saison 2, c'est donc inondation des urgences, et donc les urgences, l'hôpital il doit continuer à travailler, il ne peut pas s'arrêter l'hôpital. Donc pour qu'il continue, on décide de mettre les urgences dans un service de médecine interne, là où travaillent les personnages principaux, les héros de mon histoire. Et ben finalement, avec cette astuce qui paraît très romanesque comme ça de départ, finalement je ne fais que raconter l'état de l'hôpital d'aujourd'hui, qui est dégradé en effet.
Alors il y a cette urgence, un nombre important de patients intoxiqués au monoxyde de carbone, ouais. Et on stick un sticker jaune, un rouge pour les cas graves, pour déterminer qui aura accès à quels soins et dans quel ordre de priorité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tri des patients. C'est dur de faire passer cette notion-là.
Ça a été écrit avant la crise sanitaire, parce que moi, j'ai souvent... Oui, c'est dur, mais en même temps, le tri, il est omniprésent à l'hôpital, et surtout dans un service d'urgence. Quand vous arrivez dans un service d'urgence, vous êtes trié. On vous donne soit un numéro, soit une couleur, selon la gravité de la raison pour laquelle vous venez. En général, si vous attendez 5-6 heures aux urgences, et souvent on se plaint d'attendre longtemps aux urgences, en général, c'est qu'on a quelque chose de pas trop grave, quoi. En tout cas, on n'est pas dans une urgence vitale. Et donc oui, on a cette habitude, mais c'est très douloureux pour les soignants.
Je vous ai dit les rouges et les couchers d'abord, alors qu'est-ce que vous foutez? Si on ne suit pas le protocole, on va la tête dans le mur, on a perdu une personne là déjà. Le caisson hyperbare, c'est 3 places maximum. Une séance de réoxygénation, ça dure 1h30. Alors on peut pas se planter sur qui y va, qui n'y va pas, parce qu'on a des patients qui tiendront pas 1h30. Alors on se concentre sur les graves. Les graves, c'est ceux qui sont stickés rouges. Rouge égale gravité, égale priorité, égale rapidité. On trie, on score, on envoie au caisson. Les stickés jaunes, ceux qui sont debout, ceux qui vous racontent leur vie, on verra plus tard.
Thomas Lilti, vous êtes revenu brièvement à l'hôpital entre mars et avril 2020, lors du pic de l'épidémie, le tournage était arrêté. Quel est le sentiment que vous avez quand vous arrivez dans le vrai hôpital?
Alors, être hyper sincère, quand j'arrive dans le vrai hôpital, déjà, j'emmène pas large. Ça fait presque 10 ans que j'ai pas pratiqué la médecine. Je viens juste pour filer un coup de main. Je suis accueilli à la fois sympathiquement et en même temps, je sens bien qu'il y a plein de gens qui se disent, mais ouais, ok, c'est le réalisateur qui vient aider. Il vient chercher des idées pour son scénario. Bon, voilà, je suis pas hyper à l'aise et en même temps, je prends une sorte de retour de bâton émotionnel très puissant parce que, en effet, la réalité et la fiction se mélangent totalement. Je me rends compte que ce que je raconte est totalement en phase avec ce que les soignants sont en train de vivre. Je découvre même un hôpital encore plus abîmé que ce que j'imaginais et surtout des soignants vraiment épuisés. Épuisés non pas par la crise sanitaire, parce qu'ils sont prêts à... Mais on a beaucoup dit c'est une médecine de guerre, mais c'était pas une médecine de guerre. Ce qu'ils ont vécu au mois de mars, les soignants, c'est une médecine de pénurie, en fait. C'est des gens qui, à l'âge de 20 ans, 21 ans, très jeunes, des fois 17 ans pour les aides-soignants, ont décidé de faire un métier où on va être au service des autres. Et quand on peut pas bien le faire, ce métier, quand on n'a pas assez de temps pour s'occuper d'un malade, même si c'est juste pour faire une toilette, c'est essentiel, par exemple, de faire une toilette à l'hôpital. Si on n'a pas le temps de bien la faire, eh ben, je pense que ça procure beaucoup de souffrance.
À un moment, il va falloir qu'une grande série, un grand film, un documentaire majeur raconte ce qui s'est passé à l'hôpital ces 12 derniers mois. Et j'insiste, hein, cette saison 2 d'Hippocrate, ça n'est pas une saison sur le Covid. Mais il va falloir nous raconter ce qui a percuté notre système de santé comme ça. Vous avez commencé à bosser ?
Oui, j'y réfléchis en tout cas, mais vous avez raison de rappeler, la saison 2 n'est pas du tout une série sur le Covid. C'est
pas
vraiment important de le dire.
C'est les dernières heures avant le Covid.
Oui, c'est ça. Moi, je raconte l'état de l'hôpital. Pourquoi ça s'est si mal passé au mois de mars, en fait ?
On est en février 2020.
On est en février, en gros.
Ouais.
Raconter le Covid, c'est hyper, hyper complexe. Parce que d'une part, le Covid, moi, j'ai l'impression qu'il nous appartient à nous en tant que citoyens. Il appartient à tout le monde, en fait. Ce qu'on vient de vivre, ça appartient à tout le monde. Ça appartient pas encore au créateur.
Thomas Lilti, un dernier mot un peu plus léger pour terminer. Pour ceux qui auraient regardé la saison 1, il faut les prévenir. Johnny Hallyday est brutalement remplacé par Camaro.
Alors ça va être un choc pour tous les fans de Johnny Hallyday. Il y avait Johnny Hallyday dans la saison 1, c'est vrai. Moi, j'ai une passion pour la chanson populaire. Alors, une passion vraiment de gens de tous les jours. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'ai choisi Camaro pour la saison 2. Et Camaro a une vraie place narrative, dramaturgique très, très importante dans cette saison 2. Mais je ne peux évidemment pas dévoiler, ça spoilerait beaucoup trop la saison 2. Mais même si vous n'aimez pas Camaro, je pense que ça vaut le coup de voir la saison 2. Parce que peut-être que vous allez vous mettre à apprécier cette grande chanson qui est Femme Like You.
Thomas Lilti, merci beaucoup.
Merci à vous.
Thomas Lilti ou Docteur Lilti ?
Ah, Thomas Lilti, ça me va très bien.
Merci mille fois.
Merci.
Hippocrate, la saison 2, c'est sur Canal+.